chanteur.
This is Diana Krall for Crooner Radio.
Acteur.
J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio. Quand j'ai découvert Crooner Radio.
Humoriste.
Bonjour, c'est Jean Dalletsu, Crooner. C'est ma radio à moi.
Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale.
Crooner and Friends.
8h15, 18h15 sur Crooner Radio.
Pour célébrer la parution de l'intégrale de ses 309 chansons chez Universal Music et sa tournée nationale, retrouvez Nicoletta dans Crooner and Friends.
Bonjour Nicoletta.
Coucou, bonjour.
Nous sommes mercredi, c'est le jour du cinéma. Mm-hmm. Et je vous vois tous les deux avec Alain Delon, jeune.
Ah ben oui, j'ai fait sa chanson du film Jeff, c'est comme ça que je l'ai connu. Il était très... Pareil, il était copain avec Eddie Barclay. Vous savez, être produite par la maison Barclay, c'était un challenge, c'était une grande chance. Parce que Barclay, quand il s'occupait de ses artistes, il s'en occupait. Il avait toujours une idée. Toujours.
Alors, pour les nouvelles générations, Eddie Barclay, c'était ce producteur français, amoureux du jazz, ouais, qui produisait à l'américaine.
Et qui était musicien. Il était, aux années 50, pianiste d'un trio.
Exactement. Voilà. Et c'est un grand monsieur avec des très belles vestes, très chic.
Et des très belles
femmes. Le producteur.
Quand on nous demande aujourd'hui, avec les histoires de MeToo, si nous, les jeunes filles de mon époque, on a eu des ennuis, pas du tout. Parce que les producteurs que j'ai connus épousaient leurs chanteuses. À l'époque.
Oui, absolument.
Moi, je
absolument.
Vois mon producteur, il a épousé deux chanteuses. Une des années 50 qui lui a fait deux enfants, et ensuite Patricia Carly. Et M. Barclay, notre grand patron, moi, il a fait 7 mariages, j'en ai fait 5 déjà, moi. Le moindre de ces femmes faisait 1m75. Nous, on était des lilliputiennes à côté. Non, ne mélangez pas les propos. On était beaucoup plus protégés qu'aujourd'hui, j'ai l'impression.
Alors, grâce à Eddie Barclay, vous signez avec lui dans les années 60. Premier single en 1966 et un tube en 1967 avec la musique.
Ouais.
Pas devenu un standard international. Mais
non, c'est parce que c'était déjà américain au départ. C'est une adaptation. On a travaillé à l'arrangement qui n'est pas le même que la base qu'on avait trouvée chez l'éditeur. J'avais demandé des trompettes en ré comme chez les Beatles. Il y avait un tube des Beatles, il y avait des petites trompinettes en ré qui étaient magnifiques. C'était Penny Lane. Ta-ta-ta, il y avait un joli son de trompette et on l'a mis dans la musique, ce qui a donné une vibration formidable sur cette mélodie. Les arrangeurs nous écoutaient. Quand on avait des petites idées musicales, ils en prenaient compte. Aujourd'hui, ils n'ont rien à dire. Les bandes sont faites, viens, tu mets ta voix, au revoir. Ils n'ont pas cet échange que nous, on a eu avec nos arrangeurs.
Et surtout, à cette époque, il faut le dire, vous qui avez été DJ de disques très à la mode de l'époque, vous aviez déjà une vraie culture musicale. Vous n'étiez pas ce qu'on appelle une oie blanche qu'on fait chanter derrière le micro, une chanson idiote. Vous aviez du grain.
J'avais la connaissance musicale. Je n'avais pas de technique, mais j'avais une grande connaissance. C'était déjà pas mal.
Et c'est pas un hasard si un autre artiste qui, lui, avait une vraie culture américaine, qui d'ailleurs parlait anglais, est devenu votre ami. Mm-hmm. J'aimerais que vous nous en disiez un mot de cette aventure. C'est votre ami Johnny.
Ah, oh, même Johnny, c'était mon frangin. Johnny, c'est lui qui m'a valorisé vraiment. Quand j'ai commencé la scène, pendant les 4 premières années de ma carrière, j'ai fait les premières parties. On partait pas tout de suite en tête d'affiche.
Ah oui, Monsieur Barclay vous demandait de faire les premières parties.
Non, le métier, le système.
D'accord, le système.
Ça n'a rien à voir avec les maisons de disques.
D'accord,
parce qu'on
n'avait
pas assez de matériel pour tenir une heure.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
Ils ont une chanson, on les envoie chanter dans les zéniths. C'est pas grave, ils sont bankable, on en profite. Et malheureusement, ça tue les artistes. On les assassine quand on fait ça. S'ils n'ont pas énormément de talent, comme une gamine comme Angèle, qui est pourrie de talent et de force, et les compositeurs, elle fait.
Il n'y
a pas de souci. Mais beaucoup se cassent la figure. On ne leur donne pas le temps d'apprendre ce métier. Nous, on prenait le temps d'apprendre notre métier. Donc après, quand tu étais prêt, paf, tu partais en vedette. Et moi, Johnny m'a fait gagner du temps. Parce qu'il m'a mis tout de suite en américaine 8 chansons. Et je le raconte dans le livre, il n'aimait pas le pianiste que j'avais, qui trouvait ringard. Il dit au bout de 3 jours de tournée, « Ah, faut que je te parle. Ouais, c'est bien, ça va, tu roules bien, ça y va. Hein. Bien. Mais ton pianiste, je peux plus l'entendre, là. Je vais te filer le mien. » Je dis, « Mais non, Johnny, c'est pas la peine, ne te rends pas compte, tu vas lui donner du travail. » Il va répéter, ça va être vite fait, t'es à voir. C'est Raymond Donnez, le garçon du pénitencier.
D'accord.
Raymond Donnez. Ah oui, bon, ben, appelle-moi ça parce que moi, j'ose pas le virer. Hein. J'avais honte de faire ça. Le lendemain, j'avais Raymond Donnez derrière moi. Il était comme ça, Johnny. Il dit, mais pourquoi? Tu comprends, moi, si je fais un spectacle, je veux que ce soit beau et bien du début à la fin.
Il est bien là,
il était généreux. Il voulait, il aimait son métier. Il voulait que les artistes qu'il invitait dans sa première partie soient à l'aise, soient heureux. Moi, il m'a appris plein de choses. Il me regardait chanter en coulisses. Il faisait des grimaces. Quand je faisais les morts le soleil, il m'imitait. il imitait la façon dont je jetais le visage. Il était très drôle. Il me faisait des clins d'œil. Il était amusant. Et j'ai décidé de parler justement de ce garçon facétieux que j'ai accompagné pendant cette tournée. Il ne pensait qu'à faire des farces, il ne voulait jamais rentrer se coucher. C'était incroyable, quoi.
Et c'était surtout, comme vous, quelqu'un de vraiment cultivé sur
il
la
aimait
musique.
La musique. Et puis on avait l'amour tous les deux d'Elvis.
Et le cinéma également.
On aimait Elvis tous les deux. Donc c'était sa copie, il m'appelait son bébé du rock'n'roll. Ah, c'était vraiment du rock'n'roll qu'il me faisait. Il était trop mignon.
Tiens, on écoute un extrait de Johnny, soit en big band, soit à Nashville.
Mais à Nashville, ça va nous rapprocher d'Elvis.
Exactement.
Très belle idée.
À demain.
À demain.
I find my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I find you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dreams came true. The wind and the willow played love's sweet melody. But all of the vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. For you were my thrill on Blueberry Hill. Yeah. And the willow played love's sweet melody. But all of the vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. Well, my thrill on the Blueberry Hill.
Crooner and Friends, tous les jours de la semaine, 8h15, 18h15, et à tout moment en podcast sur croonerradio.fr.